France Musique. Musicopolis. Willem et ses Orphéons. Le héros de notre émission est assez oublié aujourd'hui. Et pourtant, en 1841, Béranger, le grand auteur de chansons, lui écrivait ce poème. « Mon vieil ami, ta gloire est grande. Grâce à tes merveilleux efforts, des travailleurs, la voix s'amende et se plie aux savants accords. D'une fée as-tu la baguette pour rendre ainsi l'art familier ?» Alors qui est donc cet ami Willem dont la gloire est si grande ? C'est ce que Musicopolis vous raconte aujourd'hui. Willem est le fondateur d'un mouvement qui a eu une importance considérable au cours du 19e siècle, celui des Orphéons. Comme vous le devinez, ce nom Orphéon vient du mythique poète et musicien Orphée. Et on imagine bien que celui qui a mis son œuvre sous le patronage du chanteur qui charmait les bêtes sauvages avait dans l'esprit une vision fort élevée de son art. Willem, un Allemand ou un Flamand peut-être, vous demandez-vous ? Eh bien non, ou plutôt si, la consonance est bien étrangère, mais celui qui le porte est français. Il s'agit de Guillaume-Louis Bocquillon. C'est sans doute parce que son père désapprouvait son métier de musicien qu'il a pris pour pseudonyme Willem, version germanisée de son premier prénom. Comme musicien, Guillaume-Louis Bocquillon est tout sauf un enfant prodige. En revanche, il a été précoce dans un autre domaine, celui des armes. En effet, né en 1781, fils de militaire, il a vécu l'époque troublée des guerres révolutionnaires. Son père l'emmène avec lui en 1791 pour participer à la campagne de Hollande dans l'armée du Nord. Oui, à rapide soustraction, en 1791, il a 10 ans. L'enfant est vite enrégimenté dans une compagnie de sapeurs-voltigeurs et promu caporal à 14 ans. Cependant, il semble que dès cette époque, il profite de chaque occasion pour écouter de la musique et aller au théâtre. Beaucoup d'opéras sont créés à cette époque, comme la Lodoïska de Cherubini, qu'il entend très tôt. La ruse est une faiblesse.
ruse est une faiblesse. Oui, la ruse est une faiblesse. Elle afflétrit le vainqueur. Elle afflétrit le vainqueur.
Le petit Guillaume-Louis Boquillon quitte l'armée à 14 ans pour entrer à l'école de Liancourt, une école militaire où les jeunes gens sont élevés à la dure, peu nourris, peu vêtus et mal chauffés. Mais notre garçon supporte tout vaillamment. Et en 1799, âgé de 17 ans et demi, un rapport le cite comme instruit dans les mathématiques, la fortification, la grammaire, la musique, comme aimé de tous les élèves, respecté par ses subordonnés, estimé par ses supérieurs, comme un modèle d'application, de sagesse et de bonté. Bel éloge. Pour la musique, son talent a l'air de tenir de la génération spontanée. Il semble ne pas avoir eu de maître, en dehors de quelques livres de la bibliothèque de l'école. Pourtant, avec ses 300 camarades, il chante les hymnes de Gossec. Le jeune Boquillon, élève si parfait, attire bien sûr l'attention de ses maîtres. Il a déjà fait quelques essais de composition et le directeur de l'école l'adresse à Gossec, au Conservatoire de Paris fraîchement créé. Là, il rencontre aussi Méhul et Cherubini, bref, les compositeurs qui ont pignon sur rue à cette époque. En 1801, le jeune homme a droit à un an de pension pour suivre les cours de solfège d'abord, puis d'harmonie et de composition au Conservatoire. Il est ensuite nommé répétiteur de mathématiques au Prytané français de Saint-Cyr, où il enseigne aussi les principes de l'art musical. Il compose quelques chants de circonstances qui sont bien accueillis et même repris dans d'autres écoles. En 1806, enfin, il décide de tenter sa chance à Paris. C'est sans doute à l'époque où il arrive à Paris, vers 1806, que Guillaume-Louis Boquillon devient Willem, ou comme il dit parfois aussi, Boquillon-Willem. Il a 25 ans. Pas facile pour un jeune homme qui vient de passer 11 ans dans des écoles militaires comme élève puis professeur de se faire un nom comme musicien. À Paris en 1806, Willem va d'abord enchaîner les petits boulots. Publication du Voyage d'Égypte pour le ministère de l'Intérieur, professeur de musique dans une pension de jeunes filles, puis enfin au lycée Napoléon. L'année 1815 voit des bouleversements dans le paysage politique français. Le pays est dans une situation tout ce qu'il y a d'instable, avec la première restauration l'hiver, suivie des 100 jours au printemps et de la deuxième restauration pour l'été. La seule chance de salut paraît être dans le progrès des arts et le développement de sa civilisation. L'éducation populaire est le premier de ses besoins. Le général Carnot, ministre de l'Intérieur, charge une commission d'organiser une école modèle selon les principes de l'école mutuelle. L'idée de l'enseignement mutuel est de laisser certains élèves enseigner aux autres, à l'aide de tableaux et d'ardoises. Ce mode d'éducation convient particulièrement à des classes très nombreuses, sans nécessité davantage de maîtres. Il convient aussi aux plus pauvres d'entre les élèves, puisqu'il économise les livres et les cahiers. Willem est profondément frappé par les résultats de la première école de ce type. Dès lors, il voudrait concevoir un nouvel enseignement de la musique et du chant dans le même esprit. Pendant plusieurs années, tout en enseignant dans diverses institutions, Willem expérimente pour trouver une nouvelle méthode d'enseignement de la musique. Il décortique les difficultés, il crée des tableaux, il fait chanter des jeunes gens, adolescents et enfants. Et déjà, les auditeurs de ses premiers essais sont conquis par les accents harmonieux, les effets si nouveaux, les chants si doux et si purs qui retentissent sous la baguette du maître. Il est certain que Boquillon Willem a quelque chose d'un philanthrope. Il est désigné à titre bénévole à la tête d'une expérience nouvelle décidée par le conseil d'instruction primaire du département de la Seine sur l'enseignement du chant. Il entre dans ses fonctions gratuites, dit son biographe, avec autant et plus de zèle qu'on eût pu exiger d'un professeur salarié. Si le préfet et le ministre sont du côté de Willem et de l'enseignement du chant dans les écoles, ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains prédisent déjà qu'avec le chant, les écoles ne serviraient qu'à faire des pépinières de théâtre, comme la gymnastique ferait des saltimbanques, qu'on avait assez d'artistes, de chanteurs et de cantatrices. Malgré tout, avec de nombreux tâtonnements dans sa méthode, Willem avance. Après plusieurs essais concluants, une fois que Willem a construit toute une méthode, inventé l'escalier vocal et la nouvelle main harmonique, imaginé l'indicateur vocal et fabriqué des tableaux pour l'apprentissage des notes, il est de plus en plus reconnu. Maître de chant à l'école polytechnique, puis chargé de l'organisation d'une école normale de chant élémentaire, chargé de diriger l'enseignement du chant dans les écoles élémentaires de Paris. De plus en plus d'écoles parisiennes disposent de sa méthode. Bientôt, des écoles de toute la France vont bénéficier de cet enseignement. L'enseignement du chant généralisé dans les écoles de Paris, puis étendu à la France entière, c'est bien. Mais il faut aller plus loin et réunir périodiquement plusieurs écoles entre elles pour chanter en commun. C'est ce que fait Willem en octobre 1833. Et c'est cette réunion qu'il nomme Orphéon. Willem est alors tout à fait reconnu. Il a 52 ans et il va bientôt être comblé d'honneur. Il est à présent directeur-inspecteur général de l'enseignement du chant. Il ouvre maintenant des cours gratuits pour adultes. Il donne des concerts. Les réunions de l'Orphéon sont de plus en plus suivies. Chaque concert est suivi par des personnalités enthousiastes, préfets, ministres et bien sûr musiciens. En juillet 1838, Hector Berlioz, en personne, rend compte de l'un d'eux. Il en profite pour rappeler un peu l'histoire du mouvement. Plus de 2000 enfants et de 500 hommes, écrit-il, se livrent à l'étude spéciale du chant. Et 10 000 enfants reçoivent une instruction préparatoire par des exercices généraux de musique vocale et en participant au chant des prières et des marches. C'est à l'unité et à la sûreté de l'enseignement que l'on doit les résultats remarqués dans les réunions de chant, qui ont été nommées depuis « réunions de l'Orphéon ». Vers la fin de 1835, M. Willem proposa d'étendre d'une manière régulière à toutes les écoles communales les avantages des réunions gratuites de l'Orphéon, et l'institution fut fondée. Telle est la simple histoire de l'agrandissement progressif de ces vastes concerts de musique vocale qui ont produit à Paris depuis quelques mois une si vive sensation. Les deux derniers surtout ont vraiment excité l'enthousiasme par l'étonnement où la perfection d'un pareil ensemble devait naturellement plonger un auditoire peu accoutumé aux grandes harmonies chorales. Après la mort de Willem en 1842, le terme d'Orphéon va bientôt prendre un sens un peu différent, ce qui pourrait faire l'objet d'autres musicopolis. En attendant, il faut vous imaginer ces réunions de l'Orphéon un peu différemment de ce que nous écoutons depuis le début de l'émission. Même si j'ai choisi notre bande-son parmi les morceaux du répertoire de Willem, qu'il publie en plusieurs volumes sous le titre, tiens donc, d'Orphéon, lui les fait chanter sans accompagnement, sans aucun instrument. Et il compose lui aussi tout exprès des morceaux adaptés qui ne sont malheureusement pas enregistrés. Berlioz, pour sa part, nous dit en juillet 1838 qu'il a entendu divers fragments de Mozart, de Rossini et d'Aubert. Et selon lui, les jeunes chanteurs ont excité les plus vifs applaudissements dans le joli petit cœur de M. Halévy, « Vive l'Italie !» Le chœur Vive l'Italie, extrait du Dilettante d'Avignon de Jacques Fromental-Halévy. Le chœur régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'orchestre régional Avignon-Provence, dirigé par Michel Picmal. Le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Vous pouvez aussi aller consulter la page Musicopolis l'intégrale pour retrouver toutes les précédentes émissions. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Antoine Viossa pour le mixage, Clément Diaz pour les recherches et le site et Philippe Petit pour la réalisation. À réécouter sur francemusique.fr.